Et la gagnante est... Suspense. Judith Brioche. Oh non, merde. Excusez-moi. Juliette Godemiche. Je suis vraiment très ému. Je m'attendais à la voir, mais enfin je voulais... Je voulais remercier, je sais pas si vous pouvez comprendre, en fait, parce qu'en fait, vous pouvez pas comprendre.
Ah, ils vont se multiplier.
Chut. Venez, on va se mettre en retard pour l'émission.
Ne fais pas de bruit, t'as pas le d'or.
Une, un, tout, vous.
En 25 ans d'émission, j'en ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
C'est lequel?
On a tout vu. Now, go away now.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Espoir, sentiment d'une personne qui attend avec confiance. Celui ou celle qui a de l'espoir considère qu'il, elle, est en mesure d'obtenir quelque chose ou de parvenir à un certain succès. Ils seront 10 espoirs vendredi prochain au César. Nous en avons choisi 3, Céleste, Louana et Anthony. 3 prénoms et futurs, on l'espère, grands noms du cinéma. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Heureusement pour eux, pour leur stress et pour leur petit cœur, c'est un des premiers Césars décernés et c'est souvent un vrai moment d'émotion. Bonjour Céleste Brunkel.
Bonjour.
Nommée donc dans la shortlist des espoirs féminins cette année, première apparition à l'écran et déjà le rôle principal de pratiquement tous les plans dans Les Éblouis de Sarah Souko. Elle a commencé ce métier à 10 ans. Bonjour Loana Bajrami.
Bonjour.
Nommée espoir pour votre rôle de servante dans Portrait d'une jeune fille en feu de Céline Sciamma. Loana, actrice et déjà réalisatrice, vous êtes en train de monter votre premier film. Lui aussi connaît bien la musique, acteur au cinéma depuis Les Ogres en 2016. Bonjour Anthony Bajon.
Bonjour.
Nommé espoir pour votre rôle du fils de Guillaume Canet dans Au nom de la terre d'Edouard Bergeon. Enfin, nous parlerons des sorties de la semaine, des femmes à Hollywood, le nouvel Eastwood, une lettre à Franco, un sortilège ou une mère incroyable. C'est parti.
Le César est attribué à Judith Godrej dans... Merde, pardon. Oh, je suis désolée, excusez-moi. C'est Judith Henry dans La Discrète, excusez-moi.
Voilà, on m'a dit de préparer un truc, j'ai pas préparé, j'ai peut-être fait une bêtise, je sais pas. Vraiment, merci beaucoup. Merci aux frères Lumière, voilà, qui ont créé le cinéma. Voilà, on m'a dit qu'il fallait que je le dise.
Cyril, l'ennemi fauve, je l'ai porté en moi pour toujours. Et ça m'a donné la force et ça m'a donné la vie. J'espère jamais te décevoir. J'espère que tu seras toujours fier de moi. Et je suis sûre que là-haut, tu as déjà trouvé la pellicule et une caméra. Je vous embrasse et je vous remercie du fond du cœur.
Et... Ouais, ça va, ouais, mais c'est dur en fait, parce qu'il y a trop d'émotions. Et je vais remercier aussi les producteurs, parce que en fait, ils ont été beaucoup là avec moi, et même sur le film, ils me disaient ouais, c'est bien ce que tu fais et tout. Et j'avais envie de les remercier.
Ensuite, je voudrais remercier Guylaine Zay, Guylaine qui était mon agent à l'époque et qui s'est battue parce que je devais pas aller sur le casting. Adèle, il voulait pas d'actrice. Et Guylaine, elle m'a incrustée sur le tournage. Elle m'a incrustée dans le casting. Guylaine, merci du fond du cœur. Merci beaucoup.
Puis bah merde à tout le reste des nommés et voilà, et merci beaucoup.
Vanessa Paradis, Kevin Azaïs, Romane Boringer, Rod Parado, Sarah Forestier, tous César du meilleur espoir, c'est le meilleur qu'on vous souhaite, vous voyez tous les trois. Rire et être presque un peu anxieux avant d'y aller, Céleste Brunkel, Louana Bajrami, Anthony Bajon. Mais au fond, est-ce que c'est si important, Louana?
Important, je sais pas, mais c'est très excitant.
Anthony?
Bah, c'est le premier pas vers un semblant de reconnaissance du métier, donc c'est important, non, mais ça peut être sexy de l'avoir, ouais.
Céleste.
Important, je crois pas. Enfin, oui, c'est un plus, mais ta carrière, je pense, ne dépend pas que de ça, quoi. Tu peux te débrouiller et avoir une très belle carrière sans. Enfin, c'est toujours sympa, mais c'est pas forcément le but, quoi. Mmh.
Question pas piège, mais qui l'a eu l'an dernier?
Ils sont pièges.
Les deux espoirs de Sheher Al-Azad, ouais.
Pas mal.
Bravo, un point.
Vous avez ressenti quoi quand vous les avez vus, justement? Parce que ce sont en fait deux acteurs qui ne le sont pas a priori. Ça vous a fait quoi, Luana?
J'ai trouvé beau qu'ils soient nommés en duo, enfin en duo comme ça pour ce film que j'ai beaucoup aimé.
Oui.
Et après, le fait que ce ne sont pas des acteurs, ça vous embête un peu en tant que déjà professionnel?
Non, ça m'embête pas. Enfin, ouais. Je ressens pas une compétition personnellement, ouais. Après.
Anthony, vous avez vu les films de vos compétiteurs? Vous avez vu les autres films ou pas?
J'ai pas vu Hors Normes. J'ai vu La Vie scolaire et j'ai vu Le Misérable.
Ouais. Et vous, alors, est-ce que vous votez? Est-ce que vous votez au César?
Alors non. Moi, l'année dernière, on m'a proposé suite à ma nomination et j'ai pas donné suite parce que je me sens pas légitime à voter, à donner mon avis.
Ah oui.
Peut-être dans quelques années, mais pas tout de suite. Donc non.
Ah oui.
Sagesse.
Et vous, Céleste?
Bah pas vraiment, vu que c'était mon premier film.
Ouais.
Mais moi, j'aimerais bien voter.
Sans légitimité. Pour le coffret, quoi.
Enfin, j'ai même pas pensé à ça, mais j'aimais bien. Oh, c'est surtout pour le coffret.
Bah oui.
Quoi. Même l'idée de voter, je sais pas, j'aime bien. En général, pour tout. J'aime bien.
Et pourtant, vous n'avez pas l'âge de voter encore.
Non. Bientôt.
Justement. Ah, c'est ça.
Ouais.
Vous savez quelle est la plus jeune qui a eu l'espoir féminin?
Non.
C'est Charlotte Gainsbourg et elle avait 14 ans.
Pour l'effronter.
Vous trouvez pas ça dingue? Imaginez, mettez-vous à sa place, 14 ans.
Bah, c'est même trop tôt, je trouve. Mais parce que c'est ce que je disais. C'est après, t'as trop de responsabilités en fait. C'est un truc, comme un poids où tu. Après, je sais pas, je suis pas Charlotte Gainsbourg. Peut-être qu'elle l'a vécu différemment, mais où tu dois assurer quoi. C'est un peu un cadeau empoisonné, moi je trouve. Même à 16-17 ans, je sais pas, c'est. Quand t'as pas trop d'expérience, quand t'as pas d'appui, même quand tu connais pas vraiment le métier et que t'as pas dans le métier des gens sur qui compter, c'est compliqué de faire une place et c'est un peu flou, quoi. Je sais pas.
Comment ça a débuté avec vous tous, Luana? Vous avez eu une révélation jeune avec un film, c'est ça?
Oui.
C'était quoi ce film?
C'était un téléfilm qui s'appelait Le choix d'Adèle.
Ouais.
Et c'est le premier casting que j'ai passé en fait, parce que je faisais du théâtre, mais. J'y avais absolument pas pensé de me dire ok, je vais devenir actrice. J'écrivais déjà beaucoup. C'était quelque chose qui faisait partie de ma vie déjà.
En vue de réaliser, en vue de quoi?
En vue de réaliser, en fait, j'avais un caméscope et je filmais un peu tout, quoi.
C'est-à-dire que vous écriviez des scénarios?
Oui.
Pas des poèmes, pas des romans?
Non, j'écrivais des histoires. Ouais. J'aimais beaucoup raconter. Et voilà, ce film à 10 ans, donc ce premier casting qui m'a fait découvrir le plateau finalement, ça m'a fait comprendre tout le système de comment on fait un film. Et du coup, je m'y suis mise tout de suite après à écrire des scénarios comme ça dans la cour de récré. C'était assez incroyable. D'ailleurs, j'emmenais tous mes amis avec moi. Je les embarquais dans des aventures. J'avais fait un premier film, un moyen métrage, j'avais 10 ans. C'était n'importe quoi, ça s'appelait Destin Robotique. C'était incroyable.
Et donc, il n'y avait pas l'ambition, en fait, de devenir actrice, presque, plus réalisatrice?
Non, en fait, le jeu, c'était un plaisir, c'était un vrai plaisir, et c'était même un exutoire, je crois.
Mmh.
Et ma véritable ambition, c'était de raconter des histoires. Après, on en raconte aussi en étant acteur.
Oui.
Et donc, c'est deux métiers, c'est deux passions que je peux...
concilier.
Que je peux concilier, voilà. Ouais. Et qui apporte beaucoup.
Anthony Bajon, vous, votre premier choc au cinéma, c'est un film qui s'appelait Le Roi Lion, c'est vrai?
Ouais, mais rigolez pas.
Mais non. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, j'avais 5 ans et ma mère nous a amené, mon grand frère et moi, au Grand Rex, voir Le Roi Lion dans le cadre d'une sortie, je sais plus quoi. Et je suis sorti de là, je ressentais tellement d'émotions, je suis sorti de là, je dis à ma mère, en fait, c'est ça que je vais faire de ma vie. Je vais raconter des histoires. Et ça voulait dire, je vais être acteur. Et voilà. Et à partir de là, J'ai construit, j'ai nourri mon rêve d'acteur en écrivant, comme toi, des scénarios, en imaginant ce qu'est un acteur, en imaginant ce qu'est une mise en scène.
Oui.
Et j'ai nourri mon rêve depuis toujours, en fait.
Vous avez fait, vous n'aimez pas trop qu'on en parle, mais un tout petit peu de formation à Paris, mais...
Oui, je suis parti très vite.
Pourquoi ?
On a comme un accord avec le directeur.
Parce que quoi ?
Parce que ça s'est mal passé.
Mais pourquoi ? Vous étiez indiscipliné ? Qu'est-ce qui s'est passé, Anthony ?
Là, on est en direct.
Ouais.
Et il est possible que ma mère écoute à un moment donné, donc non.
Même en différé, elle pourrait écouter.
Non, mais comme un accord, on s'est serré la main et on s'est dit, ça fonctionnera pas.
Mais c'est l'idée de quoi d'apprentissage que vous n'aimez pas, qu'on vous donne.
Oui, ça et la discipline.
Oui.
Et puis des désaccords. Désaccords. Et moi, je conçois le métier autrement. Je pense que les cours de théâtre formatent les apprentis comédiens. Et moi, j'ai une autre approche du métier. Mon approche du métier, elle est plus sur le côté sensoriel, sur apprendre de soi. Coluche disait comédien, c'est un métier qui s'apprend à partir de soi. Moi, je crois complètement à cette phrase.
Ce que vous me dites, ça me donne envie de vous faire écouter un petit son d'un grand acteur que vous devez aimer beaucoup, c'est Patrick Devers.
Je suis très 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 cérébral, c'est-à-dire que je cogite les moindres détails, je travaille toujours la veille pour la scène du lendemain, et je peux travailler très 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 longtemps sur une scène. Ça peut me prendre une nuit entière des fois quand il y a quelque chose que je ne sais pas comment je vais le faire. Et puis quand on arrive sur le plateau, quand on doit tourner, à ce moment-là, je peux, comme je suis armé, je peux complètement laisser tomber tout ce que j'ai cogité pour me livrer complètement à l'inspiration du moment.
Ça vous inspire ça justement, Tony ?
Ah oui, complètement. C'est moi, mon approche du métier, elle est exactement pareille que ça, c'est-à-dire intellectualiser au maximum le tournage avant, le scénario.
Intellectualiser.
Intellectualiser, oui. Pour justement être tellement béton,
oui,
qu'on pense plus au texte, on pense plus à ce qu'on doit faire, et on se rend disponible et ouvert pour le metteur en scène, pour ses camarades.
Et les autres aussi, voilà, c'est ça, les acteurs.
Oui, pour ses camarades,
face,
bien sûr, ouais. Pour le jeu et tout ça. Mais ça, s'il n'y a pas un gros travail en amont, en tout cas, moi, je ne sais pas comment on peut faire autrement.
Vous dites, à Paris, on m'a fait comprendre que je n'avais pas les codes, parfois avec mépris. Quand vous êtes arrivé à Paris, c'est vrai ?
Oui, mais c'est encore le cas. Moi, je viens de banlieue.
Oui.
Je viens d'un quartier pas forcément évident. Donc, forcément qu'il y a des choses inconscientes quand on se déplace, quand on marche, quand on parle, quand on agit, quand on fait des mouvements. Il y a quelque chose... Les Parisiens le voient, qu'on n'est pas de chez eux. Et ils nous le font bien comprendre. Et ça, c'est encore le cas aujourd'hui.
Et dans votre jeu ?
Dans mon jeu, non, mais dans le jeu, il y a plus de code, il y a rien de politique, il y a rien de religieux, il y a rien de social, il y a absolument rien.
Ouais.
Dans le jeu, c'est quelque chose d'organique, et ça, c'est pour tout le monde. Il y a pas de frontières.
Ouais. Céleste, vous avez été repérée dans un cours de théâtre.
Mm.
Et ça a commencé comment, votre vocation à vous ?
Je sais pas, c'était vraiment une vocation. Enfin, moi, j'ai commencé par ma prof de français, en fait, du collège, qui m'a emmenée dans ses cours de théâtre le lundi soir. Enfin, un truc que vraiment. Et on allait beaucoup au théâtre, du coup. Et c'est ça qui m'a donné. Enfin, c'est pas le cinéma. Parce que moi, quand je faisais du cinéma, quand j'étais plus petite, pour moi, c'était la réalité, en fait. Et je me disais pas. Forcément, j'ai envie d'être à leur place, j'ai envie de jouer avec eux. C'était plus, je les voyais, j'étais contente. Et c'était au théâtre que j'ai réalisé que c'était un vrai métier, ça m'a impressionnée. Du coup, si je voulais faire du théâtre, moi, je veux toujours en faire. Hein. Mais et du coup, et le cinéma, en plus, quand tu connais personne qui fait du cinéma, tu te dis, c'est trop le coin, quoi. C'est pas le théâtre, c'est peut-être plus accessible et plus simple. Et du coup, j'ai commencé au théâtre de l'atelier. Il y a une casseuse qui est venue, qui était chez Elsa Pharaon, et c'est comme ça que j'ai fait le premier casting. Je savais pas ce que c'était. C'était un court métrage, un long métrage. Fallait des gymnastes. J'étais un casting avec plein de filles, avec que des gymnastes qui faisaient des roues arrière. Moi, je vais faire un squat. Et voilà, c'est comme ça. Après, j'ai fait des milliards d'essais avec Sarah Succo.
Ah, des milliards ?
J'ai fait mon premier casting en janvier, et elle m'a appelé pour me dire que j'étais prise vraiment en avril, quoi. C'était très long, et voilà.
Et dans Les Éblouis, vous jouez Camille, la sœur aînée d'une famille qui intègre une communauté religieuse sectaire. Mais c'est vrai que, je disais, vous êtes de tous les plans, il y a une palette incroyable à jouer. Il y a la peur, la révolte, le secret, avec la grande sœur, l'adolescente, et également connaître son premier amour. On écoute un extrait des Éblouis.
Je vais reprendre le cirque.
Faut que je prépare un numéro de clown. Tu m'aides, hein? Tu m'aides? Mais qu'est-ce que t'as?
Ils sont où, tes parents?
En retraite. À Paray-le-Monial.
C'est quoi?
Je sais pas.
Ils rentrent quand?
Je sais pas, je m'en fous.
Oh, c'est toi qui les gardes?
C'est moi qui les gère.
Toute seule?
Ouais.
C'est pas normal, Camille.
C'est bon, ta mère aussi, tu es le seul plusieurs jours.
Ouais, parce qu'elle bosse. Parce que j'ai 18 ans.
T'inquiète.
Putain, mais arrête de faire comme si tout était normal.
Parce qu'elle est normale, toi, ta vie?
Alors moi, ma mère, elle dit pas à mes amis de mettre un pull parce qu'ils portent un t-shirt noir.
Va te faire foutre.
J'en ai parlé à ma mère. Elle trouve ça très étrange aussi.
Pourquoi t'as fait ça?
Tu lui as parlé de toi? Et ta famille? Je lui ai dit que tu n'avais plus le droit de...
Putain, mais pourquoi t'as fait ça?
Pourquoi? Camille, je m'inquiète pour toi.
T'as raison, ma mère, elle va pas bien. Parce qu'elle s'est fait violer quand elle était petite. Va le dire à ta mère parfaite, ça.
Céleste Brunkel, c'est du lourd, ça, quand même, à jouer, non?
Ouais, mais cette scène-là particulièrement, parce qu'il y avait beaucoup de d'axes, et du coup c'était long à faire les tours, en plus c'était la première semaine de tournage. C'était une scène qui était un peu compliquée aussi, parce que, mais même pour des trucs tout cons, pour marcher en fait, dans la pièce, et c'est des trucs qui étaient... Mais sinon, il y a quelques scènes, ouais, difficiles, mais non, ça...
J'ai l'impression que vous n'avez pas aimé beaucoup vous entendre. Vous avez vu le film en entier une
fois? J'ai vu le film en entier, même trois
fois,
je crois.
Sans vous cacher, en le regardant vraiment?
Non, j'aime pas trop, en fait. Tu vois tous tes défauts. Déjà, physiquement, tu vois tout. Et tu me trouves pas juste, en fait. Même, du coup, que à entendre, tu... Enfin...
Et en plus, vous affrontez quand même mais des... Bien, bon, pas dans cette scène-là, mais des comédiens assez confirmés. Hein,
oui.
Daroussin, Caravaca, Cotin, ils se sont comportés comment avec vous? Mal.
Très mal. C'était horrible.
Bigitage, quand même.
Non, c'était très joyeux, en fait, et très simple, parce que j'avais un peu vu Camille Cotin et Eric Caravaca avant le tournage, et pour...
Qui jouent aux parents.
Oui, pour qu'on... Oui, voilà, pour qu'on puisse penser que c'est mes parents.
Ouais.
Et Jean-Pierre Daroussin, je l'avais croisé une fois, mais par... Ouais, voilà, que j'avais croisé par hasard. Du coup, fallait quand même que je sois intimidée par lui, même pour le jeu, c'était plutôt utile.
Ouais.
Et mais en fait, ça allait, c'était très simple. Et moi, j'étais là tous les jours. Du coup, j'étais même très proche de l'équipe technique. Et eux, ils étaient moins souvent, mais ils étaient très gentils. Ils n'étaient pas à donner des conseils, à faire, regarde, je vais t'apprendre la vie, mais c'était très bien. C'était des très bons partenaires, hyper généreux, hyper drôles. Ouais, c'était super.
Même enjeu pour vous, Louana, quand même, entre Adèle Haenel, hein, et Noémie Merlant, oui. Et puis en plus une réalisatrice extrêmement déterminée, c'est Céline Sciamma. Oui. C'est compliqué, non? Je parle de Portrait de la jeune fille en feu, parce que vous ne parlez pas énormément dans le film, mais votre rôle est très important. Vous êtes un vecteur entre ces deux, entre ces deux actrices. Ça s'est passé comment?
Ça s'est très bien passé. En fait, l'ambiance de tournage, c'était vraiment un travail collectif. C'était vraiment une création qu'on faisait tout ensemble. Et c'était très beau, en fait, de voir Céline comme ça, en chef d'orchestre, faire ce film qu'elle aime tant et qu'elle a tant aimé faire. Et de voir Noémie et Adèle comme ça se transcender aussi, c'était très beau dans cette passion-là. Et donc, faire le vecteur, en fait, faire partie de ce trio-là, c'était vraiment jouissif, en fait. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce rôle parce que justement, je trouve que ce qu'on peut jouer de plus profond, c'est pas forcément dans les mots qu'on va dire et dans les dialogues qu'on va lancer, mais plutôt dans ses regards, dans ses petits gestes, ces petites choses qu'on voit pas forcément.
Oui.
Et qui, moi, c'est ça qui me plaît le plus, en fait. C'est peut-être faire un rôle, d'ailleurs, qui n'aurait aucune parole, en fait. Ce serait intéressant, ce serait un défi.
En fait, on va quand même vous entendre parler dans cette scène. Non mais c'est important.
Quand même un petit peu.
Quand même un petit peu. Le mythe d'Orphée qui est très important, oui. Hein, symboliquement dans le film, que raconte Adèle Haenel et dans lequel vous intervenez, si on l'écoute.
Ils prennent, au milieu d'un profond silence, un sentier en pente, escarpé, obscur, enveloppé d'un épais brouillard. Ils n'étaient pas loin d'atteindre la surface de la Terre. Ils touchaient au bord. lorsque, craignant que Rédis ne lui échappe et impatient de la voir, son amoureux époux tourne les yeux et aussitôt elle est entraînée en arrière. Elle tend les bras, elle cherche son étreinte et veut l'étreindre elle-même. L'infortunée ne saisit que l'air impalpable. En mourant pour la seconde fois, elle ne se plaint pas de son époux. De quoi se plaindrait-elle, sinon d'être aimée?
C'est horrible. La pauvre, pourquoi s'est-il retourné? On lui a dit de ne pas se retourner et au dernier moment, il se retourne sans raison.
Il y a des raisons.
Vous trouvez? Allez-y, relisez.
Il n'était pas loin d'atteindre la surface de la Terre. Il touchait au bord lorsque, craignant qu'Eurydice ne lui échappe et impatient de la voir, son amoureux époux tourne les yeux.
Mais non. Il ne peut pas la regarder parce qu'il a peur de la perdre. Ça ne tient pas à ses raisons. Ce sont précisément les consignes qu'on lui a données.
Il est fou d'amour. Il ne résiste pas.
Moi, je crois que Sophie n'a pas tort. Ce n'est pas plus fort que lui et les raisons ne sont pas sérieuses. Peut-être que s'il se retourne, c'est qu'il fait un choix.
Quel choix?
Il choisit le souvenir de Rédis. C'est pour ça qu'il se retourne. Il ne fait pas le choix de l'amoureux, il fait le choix du poète.
Louana Bajrami dans Portrait de la jeune fille en feu. C'est quand même un film important par rapport aux femmes, non? C'est un film sur des femmes condamnées à des vies tracées, inclus la vôtre dans le film.
Oui, complètement. Et c'est un film, ça reste un film d'époque qui... Donc on replace ce contexte à l'époque, mais ça s'applique complètement aujourd'hui, bien sûr, d'une manière différente. Mais je trouve qu'elle a réussi à dire beaucoup de choses, Céline, en fait, et tout en finesse et de manière très subtile et d'ailleurs très... d'une manière très belle, en fait. Elle a porté un message avec classe, avec fierté. Et d'ailleurs, réécouter cette scène, ça me plonge vraiment, ça me replonge dans cette espèce de moment mystique que c'était. On était toutes les trois autour de cette table, à avoir les yeux embués par la fumée des cheminées, et à lire cette nouvelle...
Il y a une très belle scène de sororité aussi à la cuisine, toutes les trois. Hein.
Oui.
On dirait un tableau.
Complètement.
Vous l'avez beaucoup observé, j'imagine, Céline Sciamma, vous qui voulez être réalisatrice. Qu'est-ce que vous gardez d'elle dans sa mise en scène, dans sa façon de mettre en scène?
Je garde beaucoup de choses. Après, je pense qu'on a tous une manière différente de réaliser, etc. Oui. Mais on apprend beaucoup. C'est moi, Céline, c'est une réalisatrice que j'adorais même avant qu'on se rencontre. J'adorais sa filmographie, ce qu'elle faisait. Et donc, de la voir comme ça en action, c'était génial. Et Céline, en fait, à un moment, je lui ai dit, mais tu sais, j'aimerais bien réaliser, en fait. C'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et elle m'a dit, elle m'a regardée comme ça, elle m'a dit, mais vas-y, fonce, parce que t'as tout ce qu'il faut. Ça se voit dans ton regard. Et vraiment, c'est quelque chose qu'elle m'a dit comme ça, qui peut-être n'avait pas de poids pour elle, mais qui m'a lancée. Et c'est après ça que je me suis mis à écrire, en fait, ce premier long.
Qui va se passer au Kosovo.
Au Kosovo, oui.
Parce que vous êtes originaire du Kosovo.
Tout à fait.
Anthony Bajon, vous êtes le fils de Guillaume Canet dans cette histoire vécue par le père du réalisateur, Édouard Bergeon, agriculteur dont les dettes s'accumulent au fil des ans et qui finira par se suicider. Il y a quand même une pression énorme pour vous dans ce film. En gros, vous jouez le rôle du réalisateur qui est en train de vous filmer.
C'est ça. C'est oui, et à la fois, moi, je joue le rôle effectivement du metteur en scène, mais tous les autres comédiens, Guillaume, Verleux, Yona... Rufus, tout le monde interprète des membres de la famille, donc on avait tous une responsabilité, celle d'être crédible aux yeux du réalisateur, Edouard, pour qu'il arrive à voir en nous les membres de sa famille, en fait.
Mais il y a quand même une pression, non? Plus pour vous, plus que pour les autres.
Bah, c'est-à-dire que moi, mon rapport avec Edouard...
C'est une histoire grave, en plus.
Oui, oui, c'est une histoire grave, actuelle,
ouais.
Pas isolée.
Non.
Et effectivement, je voyais dans son regard tout de suite s'il voyait quand il était jeune, quoi. C'est-à-dire que Edouard me dirigeait en me disant, moi, quand j'étais petit, je disais ça, je bougeais comme ça. Et du coup, j'essayais plus ou moins de reproduire des choses et je me disais, putain, j'espère qu'il va s'identifier, j'espère qu'il va s'y voir. Et du coup, c'était très formateur.
On va écouter un extrait, on en reparle après entre vous et Guillaume Canet.
Quand est-ce qu'on pourra reconstruire?
Pourquoi tu veux reconstruire?
Bah, pour s'en sortir.
Pour s'en sortir, t'as qu'une seule solution. C'est de partir. Et toi, tu vas partir. Tu travailles bien à l'école, tu vas finir tes études et partir de ce trou.
Non, mais moi, papa, je prendrai la suite au grand bois. Hein. Tu peux compter sur moi.
Non, j'ai pas envie que tu reprennes la suite. Tu comprends ça? J'ai pas envie que mon fils mène une vie à la con comme la mienne. Puis c'est fini, les grands bois. C'est du passé. Pars. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes à faire. Crois-moi. Moi, j'aurais dû lui dire combien mon vieux. Et jamais revenir ici, là, je crois, au Wyoming, en train de galoper dans les grandes plaines. Loin de toute cette merde.
Et maman?
Ta mère, regarde sa vie, si tu crois que je l'ai rendue heureuse.
Et Emma? Et moi?
Oui, grosse implication de Guillaume Canet aussi, Anthony Bajon.
Ah oui, très grosse implication. Et j'en profite juste pour dire que pour moi, c'est un scandale qu'il ne soit pas nommé.
Lui, enfin, Guillaume Canet.
Oui, oui. Ouais. Bien sûr. Bien sûr.
Mais j'allais dire, il y a d'autres petits scandales. Par exemple, vous êtes espoir pour ce film. Mais on aurait bien aimé aussi que vous soyez associé à un film qu'on adore, qui s'appelle Tu mérites un amour de Afsia Herzi, qui est un premier film. C'est quand même incroyable, non, qu'elle soit pas nommée.
Ah bah, Afsia, c'est une machine à tuer, quoi. Afsia, il y a un côté Mulan, en fait. Elle fait tout. Elle fait tout. Elle fait limite nos pick-up. Elle fait la régie. Elle fait tout. Elle gère les costumes avec nous. Elle est devant, elle est derrière, parce qu'elle est dans tous les plans, hein, faut pas l'oublier.
Ouais.
Et elle s'est démenée comme rarement. Moi, j'ai vu ça, en tout cas. Et c'est vrai que elle aurait mérité d'avoir un petit clin d'œil de l'Académie.
Mériter un amour et mériter un César, mais de toute façon...
C'est un film qu'on conseille. Si
ah ouais, vraiment, vu, faut vraiment. Le voir. Tu mérites un amour.
Une belle énergie.
Vous dites, Anthony Bajon, j'ai grandi dans un milieu, dans un monde violent, je me suis assagi avec le cinéma. Carrément.
Oui, sans rentrer trop dans les détails, parce que j'ai pas envie.
Non.
Mais oui, ça aurait pu être plus compliqué pour moi.
Oui.
Mais le cinéma m'a offert quand même un peu une étoile que je pouvais observer et qui me gardait mon énergie, en tout cas me permettait de la placer au bon endroit, celle de mon ambition tout simplement, et pas aller ailleurs vers des choses plus facile d'accès, mais moins sécure.
Oui. Vous êtes au courant tous de la polémique autour des Césars, hein, la démission collective du conseil d'administration. Vous en pensez quoi, Céleste? Non, parce que ça va être une cérémonie particulière, hein.
Oui, bah ça, je suis hyper contente d'arriver quand il y a tout ce bordel, en
oui.
fait. Et même, enfin, c'est un peu égoïste de dire ça, mais même pour moi, du coup, il y a moins de pression, en fait.
La pression est ailleurs.
Oui, pour la cérémonie. Mmh. Et je suis contente. Et c'est bien aussi qu'ils aient pris eux-mêmes la décision de partir et de laisser la place. Après, je savais pas trop à quoi ils servaient, vu que c'est pas. L'Académie, c'est les votants, c'est. Parce que eux, ouais, en fait, je vois pas leur rôle, en fait. Mais je suis contente que les.
Eux non plus, hein.
Que les vieux
hommes
laissent la place à la nouvelle
à
génération.
À des jeunes femmes.
Des jeunes femmes et des jeunes hommes et ouais. Et. Qu'il y ait plus de parité, que plus de diversité, même pour représenter le cinéma d'aujourd'hui, qui est très...
Très masculin?
Non, et justement, on veut...
Ah oui, aujourd'hui, pardon. Aujourd'hui, bien sûr, qui est représenté par plus de femmes que celles qui sont représentées au César.
Oui,
on va vous faire écouter une femme à propos de parité, et j'aimerais bien avoir la réaction de tous les trois, à une très grande actrice qui s'exprime il y a 45 ans, et elle s'appelle Delphine Seyrig.
Moi qui suis actrice, quand je parle d'un personnage de femme avec un réalisateur homme ou avec une réalisatrice, c'est forcément très différent parce que quand je parle avec une femme, on parle pas d'une même personne, mais d'une personne du même sexe. De même que j'imagine que pour les acteurs, ça doit être... ils sont toujours avec des réalisateurs hommes, donc quand ils parlent de leur personnage avec un autre homme, ils doivent savoir ce que c'est. Je veux dire, c'est... Et pour les femmes, c'est très rare. Pour les actrices, c'est très rare de parler avec une autre femme.
Qu'est-ce que vous en pensez, Loana?
Vous qui avez travaillé avec Céline Sciamma, par exemple.
C'est évident, parce que de toute façon, une femme qui parle d'un rôle de femme, enfin, elle est femme, donc elle sait ce que c'est. Maintenant, je comprends tout à fait le souci de la parité, le souci de tout ça, et c'est très bien qu'on essaye de faire évoluer les choses. Maintenant, moi, j'ai vraiment une vision assez arrêtée là-dessus, c'est que, en fait, avant d'être des femmes et des hommes, on est des humains. Et du coup, je le dis très souvent ça, mais moi, je m'estime plus humaniste que, qu'autre chose.
Que féministe?
Bah, je pense qu'on est tous féministes, que genre, tout simplement. Mmh. On est tous féministes, en fait, à moins qu'on soit justement contre les femmes. Parce que pour moi, être féministe, la première définition d'être féministe, c'est qu'on défend ces droits-là. Mmh. Maintenant, c'est fou que Delphine en parle il y a 45 ans, parce que c'est quelque chose qui date de toujours, en fait.
Mais oui.
Et c'est très bien qu'aujourd'hui, il y ait des brèches et des ruptures qui permettent de mettre en lumière ce souci-là, et qu'il y ait le collectif 50-50, par exemple, qui se bat pour ça.
Oui.
Mais on sent que vous n'avez pas envie, pour autant, d'en parler dans vos films, par exemple. Pour vous, ce n'est pas un enjeu.
J'en parle. Ouais. J'en parle, mais sans. C'est pas quelque chose que je mets en avant, sur lequel j'insiste. Mmh. Mais c'est quelque chose qui est inévitablement présent, qui est là.
Vous restez avec nous tous les trois, Céleste Brunkel, Anthony Bajon, Louana Bajrami. On va vous faire écouter un petit conseil de Depardieu, suivi de Angèle, espoir de la musique.
Pour les acteurs, ce qui compte le plus avant le talent, je crois que c'est surtout la santé dans la tête morale. Il y a des gens qui sont très encombrés par le succès. D'ailleurs, le succès est très encombrant. C'est très difficile de conserver un succès. D'ailleurs, c'est pas de le conserver, comment dire, en disant je veux être le premier. C'est pas ça, mais d'essayer de conserver le succès de soi-même en même temps. Sur le choix des films, les rigueurs, ce que ça demande. Pas faire forcément que des films à la mode. Simplement essayer de se trouver encore soi-même, avec la même envie, la même naïveté, le même désir que quand on commence.
On part de l'altitude, toi et moi, loin de nous, ni l'un ni l'autre n'ira. On perd notre aptitude, celle qu'on avait, à rester fier, ni l'un ni l'autre ne l'a. On perd notre temps, à se perdre tout le temps, loin de nous, ni l'un ni l'autre n'ira. Perdu, perdu, perdu. Tous ces gens m'avaient prévenu. On descend, on l'a voulu. Perdu, sans s'entendre sur notre but. On s'ennuie fort, on se tue. Perdu, perdu, perdu. Tous ces gens. Mais ces derniers mois, j'ai flanché loin de toi, loin de moi, sans prendre la mesure de ce qui m'arrivait. Et c'est arrivé sans le voir venir. Notoriété oblige, j'y prends bien du plaisir, même si j'y perds ma liberté. Vouloir trop réussir, la pression du succès des gens, les autres. Donc qu'est-ce qu'on va devenir?
Parler des sorties. On va commencer de ce mercredi. On va commencer par Wet Season de Anthony Chen. Des trombes d'eau s'abattent sur Singapour. C'est la mousson. Ling est professeur de chinois dans un lycée de garçons. Sa vie professionnelle est peu épanouissante et son mari, avec qui elle tente depuis plusieurs années d'avoir un enfant, est de plus en plus fuyant et une amitié inattendue avec l'un des élèves survient. C'est un film sur le silence, la douceur, l'épreuve et la solitude.
Oui, Anthony Chen, on lui doit, il y a quelques années Ilo Ilo, Caméra d'or au Festival de Cannes, donc pour un premier film. C'est donc son second film de ce cinéaste singapourien. On peut lui reprocher une histoire finalement un petit peu convenue et une façon convenable de la traiter. Il reste que, même si certaines métaphores récurrentes dans le film alourdissent un peu le propos, c'est évident qu'il est un réalisateur très très délicat, souvent une mise en scène inventive. Donc moi je retiendrai surtout ça d'un point de vue formaliste. Le reste est un peu décevant.
Le cas Richard Jewell, c'est le nouveau et le 38e film de Clint Eastwood, qui a quand même 89 ans, le monsieur. En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des premiers à alerter de la présence d'une bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté de terrorisme, passant du statut de héros à celui d'homme le plus recherché des États-Unis. Dans la vraie vie, il fut innocenté 3 mois plus tard par le FBI. Histoire vraie donc, et de nouveau ce thème qui passionne Eastwood, l'homme ordinaire devenu en quelques heures un héros national et presque aussitôt déchu donc de ce titre par un FBI pressé par le pouvoir de trouver un coupable. Jewell n'est pas le brillant pilote de Sully par exemple, un autre Eastwood sur le même thème. C'est un type complexé, pas forcément aimable, rêvant d'être flic et hyper zélé, respectant l'autorité à laquelle il croit, mais qui le harcèle, aidé pour cela par la presse, incarnée par une journaliste arriviste et assez caricaturale. C'est la faiblesse du film. Heureusement, Eastwood crée un magnifique personnage face à Jewell, c'est son avocat et c'est l'acteur Sam Rockwell, un type en bermuda et basket, cool, déterminé à combattre ce pot de fer. Malgré toute la complexité de l'affaire, la narration est simple, la mise en scène est fluide et doser sans les excès d'émotion que peuvent susciter un tel sujet. Notez un immense autre acteur dans ce film, c'est Paul Walter Hauser.
Oui, je suis tout à fait d'accord sur l'acteur principal notamment, qui est incroyable, incroyable de complexité justement, et c'est ça la force du film, c'est qu'il fait un personnage qui adore les armes à feu, donc on se dit, c'est pas un gentil, bon, il adore chasser, d'accord, mais en même temps, c'est un type adorable, c'est un type qui sauve des vies humaines autour de lui, donc au fond, on se fiche totalement de ce que Eastwood pense de la presse et de la police et de l'État américain, parce que là, il verse dans la caricature, voire dans la misogynie, ça lui revient tout d'un coup, il est misogyne, il redevient misogyne, le père Clint, mais le reste, le personnage principal, ça oui, alors c'est un magnifique personnage.
Ça s'appelle le cas Richard Jewell. Oui. Tout peut changer, et si les femmes comptaient à Hollywood, c'est un doc fait par un garçon, Tom Donahue, sur la sous-représentation des femmes à Hollywood, avec des données chiffrées, des témoignages accablants, et aussi des témoignages de nombreuses voix d'Hollywood, comme Meryl Streep, Kate Blanchett, Natalie Portman, Witherspoon, pardon, Jessica Chastain ou Gina Davis, qui elle-même a fondé un institut Gender in Media.
Oui, alors bon, c'est un garçon qui va parler d'un film de garçon sur les femmes. Bon, voilà, est-ce que chacun est à sa place, c'est pas sûr. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est que en mettant en avant, par exemple, des femmes aussi fortes et puissantes dans le cinéma hollywoodien actuellement, comme Natalie Portman, vous le disiez, et Kate Blanchett, le documentaire oublie du coup certaines choses. Par exemple, de dire que la productrice Natalie Portman, parce qu'elle est productrice, n'a pas produit un seul film de femme. Ça, c'est un petit peu embêtant. Il faut le dire. C'est-à-dire que de l'exemplarité, toujours, ces femmes-là n'en sont pas forcément porteuses. Il y a aussi un discours qui serait de dire c'était beaucoup moins bien avant. Il se trouve qu'il faut rappeler, par exemple, que certains films, et surtout certaines grandes actrices américaines, ont été à Hollywood des femmes très très fortes il y a 40 ans. Et elles ont beaucoup compté. Donc, ce qu'on peut contester, c'est l'avalanche de, vous le disiez, de chiffres, de statistiques, d'affirmations souvent à sens unique. Et puis surtout, en 1h30, vouloir tout brasser, la diversité, les femmes, l'égalité salariale qui est si nécessaire, etc. Je trouve que le réalisateur s'y perd, et nous avec.
C'est un début, après il faudra défricher, comme on dit. Une mère incroyable de Franco Loli. Ça se passe à Bogota, en Colombie. Sylvia est mère célibataire avec un fils qu'elle élève seule, avocate. Elle est mise en cause dans un scandale de corruption. À ses difficultés professionnelles s'ajoute une angoisse plus profonde. Laetitia, sa mère, est gravement malade, tandis qu'elle doit se confronter à cette disparition inéluctable, elle se lance dans une histoire d'amour, la première depuis des années. C'est un portrait de femme dans lequel, moi je trouve, tout sonne juste, sans pathos, ni victimisation, plutôt brute, et surtout porté par deux incroyables actrices, Carolina Sanin, qui est une écrivaine et féministe connue en Colombie, et Laetitia Gomez, la propre mère du cinéaste, elle-même résiliente d'un cancer pendant le tournage, et pourtant, eh bien, cet événement n'encombre pas le film d'émotions superflues, et le film sert très sagement le combat contre la maladie à l'approche de la mort qui déchire cette cellule familiale et révèle chacune mère et fille entre bagarres et petits moments de bonheur jusqu'à une fin âpre mais plutôt réaliste.
Oui, c'est un deuxième long métrage qui était présenté d'ailleurs la semaine de la critique à Cannes cette année, après Les gens de bien qui était très remarquable aussi. Et je partage complètement votre vision du film, c'est-à-dire il y a une espèce de très très beau naturalisme avec par exemple un sens des dialogues qui est tout à fait étonnant, et puis ces deux actrices principales qui font monter progressivement et la tristesse et la rage aussi tout au long de ce film qui n'est pas du tout un film sage.
Ça s'appelle Une mère incroyable de oui. Franco Loli. Maintenant un doc, ça vous intéressait a priori Anthony Bajon, ça s'appelle Des hommes de Jean-Robert Vialet et Alice Audio. C'est effectivement 25 jours en immersion dans la prison des Baumettes, 30 000 mètres carrés et 2000 détenus dont la moitié n'a pas 30 ans, Laurent.
On l'a vu à Cannes cette année à la belle sélection de l'Acide, effectivement, ils ont ces deux journalistes préparés leur travail avec 3 semaines d'observation sans filmer, et c'est du travail à l'aide de pardon ou à la wise man, c'est-à-dire pas d'entretien, pas de face-à-face entre le journaliste et les détenus. Ils observent les détenus, ils les filment en condition, en train de dialoguer entre eux, et ce qui apparaît progressivement de plus en plus comme une sorte de montée terrifiante, c'est la solitude abyssale de ces hommes confrontés effectivement à cette prison qui est dans un état abominable. À part, hélas, une musique absolument hors de propos, tout le reste est extraordinaire, et on se réjouit que les deux documentaristes nous aient donné un tel film. On rappelle le titre, Des hommes.
Pourquoi ça vous intéresse a priori, Anthony Bajon?
Parce que, sans jouer les anthropologues de comptoir, mais j'avoue que c'est vraiment très intéressant d'être en immersion et de filmer ces hommes qui, du coup, sont vraiment très isolés et de voir comment chacun réagit à tout ça. J'avoue que ça m'intéresse.
Ouais. Lettre à Franco du cinéaste espagnol Alejandro Amenábar, l'auteur entre autres des Autres et de Ouvre les yeux. Cette fois, il s'attaque à l'histoire, la grande histoire. Espagne était 1936. Le célèbre écrivain, poète et philosophe Miguel de Unamuno décide de soutenir publiquement la rébellion militaire avec la conviction qu'elle va rétablir l'ordre. Pendant ce temps, fort de ses succès militaires, donc, le général Franco prend les rênes de l'insurrection. Et alors que les incarcérations d'opposants se multiplient, Unamuno se rend compte que l'ascension de Franco au pouvoir est devenue inéluctable. Prise de pouvoir contre prise de conscience, c'est un très bon thème. D'un côté, le portrait d'un intellectuel qui change, grandit et finalement se rebelle face à la barbarie. Et de l'autre, une ascension, celle de Franco, décrit à ses débuts presque comme un faible, un lâche, un falot. Ça doit être vrai, Amenábar était entouré d'un consultant historique doublé d'un conseiller militaire. Quoi qu'il en soit, le film a le mérite de raconter un épisode crucial et souvent méconnu de la guerre d'Espagne. Seulement voilà, parce qu'il y a un seulement voilà, la mise en scène limite pompeuse, la reconstitution carton-pâte de l'époque n'aide vraiment pas le propos et même alourdit terriblement malgré quelques beaux moments, comme cette scène dans l'hémicycle dans laquelle Unamuno lance aux fascistes « Vaincre n'est pas convaincre », Laurent.
Oui, c'est pas, alors Unamuno, c'est ni García Lorca ni Machado, hein, c'est quelqu'un de beaucoup plus ambigu, et je suis pas certain, comme vous effectivement, que Amenábar soit la bonne personne pour faire un cinéma politique, parce que c'est ça dont il est question et c'est cela qu'il aurait fallu faire.
Moi, j'ai appris plein de choses. Sortilège de Alaeddine Slim, présenté à la Quinzaine l'an dernier des réalisateurs à Cannes. Dans une caserne en Tunisie, un jeune soldat informé du décès de sa mère se voit accorder une permission. Il déserte et s'enfonce dans une mystérieuse forêt.
Oui, ceci est un objet filmique non identifiable. Et du début jusqu'à la fin du début, qui commence, vous l'avez dit, comme un film de guerre. Il y a des références parce que c'est son metteur en scène préféré à Kubrick, 2001. Il y a un monolithe qui traverse tout le film. Il y a des références à Full Metal Jacket. Et progressivement, ça devient dingue. Il y a des mutations physiques, il y a des rêveries, il y a de l'onirisme, il y a un serpent géant, il y a un travelling génial à un moment entre un minaret et une plage. Enfin, il y a visuellement, cinématographiquement, c'est bourré d'inventions, d'inventivité, de choses baroques, de choses chose qui vous transporte. On se plaint trop souvent à ce micro de ne pas avoir assez à manger de cinéma chaque semaine. Ben là, franchement, allez dans une salle, vous aurez du grand cinéma en face de vous. Ça s'appelle Sortilège.
On a deux secondes parce qu'il ne reste pas de temps. Les Nuits de Cabéria de
Fellini qui ressort en salle.
Un cadeau le même pour les trois.
Et voilà, le film qu'on a beaucoup aimé, le film étranger, Le Traître de Marco Bellocchio qui sort en DVD chez Ad Vitam. On vous le recommande à vous, nos auditeurs. On vous l'offre à vous, nos invités. Et peut-être, après tout, pourquoi pas, une bonne surprise sera-t-il le César du film étranger puisqu'il est en compétition.
Oui, je voulais juste dire, je voulais juste préciser que le Salon Gras de l'Agriculture ouvre ses portes.
Oui, bien sûr.
Bravo. Toujours sur le coup.
Les Césars, vendredi prochain, le 28, salle Pléiel et en clair, en direct, en exclusivité sur Canal+. Générique de fin avec vous trois, et je vous fais signe.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantes a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Ophélie Vivier s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Anna Buy.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Louana Bajrami, j'y étais.
Et moi, Anthony Bajon, j'y étais.
Et moi, Céleste Brunkel, j'y étais.